Verveine, Verveine.
What's happening? What's happening?
Hey. Underground.
Verveine Underground.
Eric s'intelligente pour contrôler la discothèque.
20h, 22h sur Europe 1.
C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure.
Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales. Nous contrôlons tout ce que vous allez voir et entendre.
Ça, c'est grave!
Je suis de retour avec ma sous-culture. Ouais, sauf que c'est nous le futur, hein?
C'est nous le futur!
Bonsoir et bienvenue dans Verveine Underground. On se retrouve chaque soir sur Europe 1 de 20h à 22h avec des invités qui viennent se raconter en musique. Et ce soir, Claude Lelouch et Philippe Azoulay sont avec nous pour le documentaire Tourner pour vivre en salle demain. Et je suis accompagné de Philippe Tessier.
Bonsoir mon doudou.
Bonsoir Philippe.
Bonsoir à vous.
Ce soir c'est une émission événement parce que c'est pas tous les jours qu'on a Claude Lelouch avec nous. Et tous les jours, Philippe Azoulay les a passés à tourner ce documentaire qui s'appelle Tourner pour vivre. À la base, ça devait durer combien de temps ?
3 ans.
Et ça a duré ?
10 ans aujourd'hui, 9 ans de tournage.
C'est un documentaire qui m'a mis tout simplement une gifle mentale, je tiens à le dire, une gifle artistique, une gifle émotive, parce qu'on tombe en empathie, en amour avec Claude Lelouch, et c'est l'empathie, c'est l'amour que dégage ses films, c'est l'amour que dégage ses choix artistiques, et c'est surtout l'amour de faire du cinéma coûte que coûte, qu'on ait l'argent, qu'on n'ait pas l'argent, qu'on ait l'envie, que les autres n'aient pas l'envie, et on voit à quel point le cinéma c'est quelque chose qui maintient, c'est quelque chose qui retient, et à quel point Claude Lelouch, c'est un enfant du siècle. Et je le dis, voilà, vous êtes au panthéon des artistes dans mon cœur, Claude Lelouch. J'aimerais qu'on écoute la bande-annonce.
J'ai trompé plein de choses dans ma vie, des femmes, mes enfants. Mais le cinéma, j'essaye de lui être fidèle. Des fois, je ne sais même pas où je vais, mais j'y vais quand même.
Il a tout changé, et les dialogues n'existent plus, c'est d'autres dialogues.
Il y a du danger sous contrôle, je ne sais pas comment dire.
Clac, 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 clac. Le hasard a pris les bonnes décisions que moi, je n'étais pas capable de prendre. C'est cruel le cinéma, des fois. Pour les amis, tel acteur qui n'est plus là, c'est souvent comme aller au cimetière. Woody Allen a fait plus de films que moi, ça m'énerve. Il faut l'arrêter, ce mec.
Ce film est sublime et je suis avec un autre réalisateur qui a filmé le réalisateur Claude Lelouch, Philippe Azoulay. J'ai une question très simple à vous poser, peut-être que vous n'avez pas la réponse après avoir filmé Claude Lelouch pendant 10 ans. C'est qui Claude Lelouch ?
C'est un passionné de la vie, du cinéma et qui est un jouisseur philosophe, on va dire, si je devais faire une réduction du temps. Et c'est en même temps, comme on venait de le dire juste avant, un jeune ado. Chose que je partage avec lui. Il a gardé sa jeunesse et son état d'esprit de ses 18-20 ans, sa passion et sa folie dans le corps d'un être qui a grandi et a vieilli. Donc il est double. Il y a des moments où on a l'impression d'être deux jeunes cons qui profitons de la vie. Et puis à d'autres moments, il est l'homme qu'il est avec toute son expérience, sa sagesse et ses réflexions.
Vous savez, moi, Claude Lelouch... On est sorti d'une période un peu bizarre avec le Covid, avec le confinement. Et je dois vous faire un aveu, c'est que j'avais eu la chance de vous inviter avant le Covid, dans Click. Et pendant le confinement, il y a un film que je regardais tout le temps. C'était L'aventure, c'est l'aventure.
Oui.
Parce qu'en fait, c'était le meilleur remède au confinement. Parce que c'est un film où quand on est loin de ses potes, en fait, on est avec des potes. Et vous avez réussi à faire quelque chose d'assez dingue. C'est filmer l'amour, filmer l'amitié. C'est comme écrire des grandes chansons d'amour ou des grandes chansons d'amitié, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire. Et aujourd'hui, le cinéma ne filme plus l'amour, ne filme plus l'amitié, filme d'autres choses qui sont aussi exceptionnelles. Il y a toujours des grands réalisateurs, il y a toujours des grands films. Et ce qui est dingue quand on voit vos films, surtout quand on voit ce film de Philippe Azoulay, c'est que chez vous, il n'y a jamais eu la prétention de faire autre chose que ce que vous aviez envie de faire.
Oui, alors, on parlait de l'aventure, c'est l'aventure, mais l'aventure, c'est l'aventure. Vous savez, il n'y a pas un enfant qui irait à l'école s'il n'y avait pas la cour de récré. Et la cour de récréation a été très importante dans ma vie. C'est dans la cour de récré que j'ai tout appris. Et donc, ce film est une récréation. C'est une récréation et c'est ça la force de l'amitié. L'amitié, c'est l'art de la récréation. Je veux dire que quand on est avec des potes, on n'est pas là pour sortir des phrases définitives qui vont changer le monde. On est là pour dire des conneries. Et c'est grâce à ces conneries que... D'abord, on ne s'en veut pas, on ne se reproche rien du tout et qu'on avance. Je veux dire, l'amitié a besoin de déconner en permanence. Elle peut pas se permettre le luxe de se prendre au sérieux. Donc, l'aventure, c'est l'aventure. C'est quoi ? C'est un mélange des Trois Mousquetaires et des Pieds Nickelés. Mmh. Voilà. Et c'est ma cour de récréation. Ma cour de récréation, c'est ma soupape de sécurité. Je veux dire que j'ai aimé des femmes et j'ai la passion des femmes. Et c'est vrai que je les place très haut. Mmh. Mais si je n'avais pas eu ma cour de récré avec mes potes, je ne pense pas que je les aurais aimées autant et que je les aurais autant appréciées.
Voilà. Vous étiez quel genre d'enfant, la cour de récré ?
Turbulent.
Ouais.
Turbulent. Et puis, je parlais beaucoup de cinéma, parce que j'étais fou de cinéma déjà. Puisque le cinéma m'a pratiquement sauvé la vie sur l'occupation, puisque ma mère me cachait dans les salles de cinéma quand on était recherché par la Gestapo. Donc, si vous voulez, à la cour de récré, j'étais vraiment celui qui préparait toutes les conneries de la journée. Quoi. Je veux dire que j'ai fait des blagues, des farces à mes profs, absolument incroyables. J'avais besoin de cette cour de récréation. D'ailleurs, s'il n'y avait pas eu la cour de récré, jamais j'aurais mis les pieds dans les salles de classe.
Et ce qui est dingue, Claude Lelouch, c'est que vous avez toujours fui le réel.
Oui, parce que on ne meurt jamais d'une overdose de rêve. Mmh. Vous voyez, le rêve, pour moi, il est fondamental. C'est le médicament principal du monde dans lequel on vit. Je veux dire que si à un moment donné, on ne ferme pas les yeux et qu'on s'envole, voilà, c'est pour ça que j'aime les artistes. Les artistes, c'est les chouchous du bon Dieu. Mmh. Ils sont là pour nous faire rêver, voilà. Et donc, j'essaye de fréquenter ces rêveurs au maximum.
C'est qui le premier artiste qui vous a éveillé ?
Incontestablement Chaplin, Charlot. Je veux dire que quand j'ai vu ce vagabonder, faire toutes les conneries de la terre, tomber, se retourner, et puis il y avait tout chez lui. Voilà. Donc je pense que quand je vois le kid, quand je suis tout petit, non, je me dis tiens, voilà, ça va être un copain avec qui je vais faire un parcours. Après j'ai adoré évidemment Jacques Tati, qui est une sorte de Charlot. Intellectuel, etc. J'ai beaucoup aimé Woody Allen aussi, qui est une sorte de Charlot aussi. Ce sont des vagabonds. Vous voyez, j'ai adoré tous ces gens qui vagabondaient. Et Sacha Guitry, qui a vagabondé avec les dames comme jamais. Enfin, je veux dire que... Ou Pagnol, qui a vagabondé avec les gens de la rue. Quoi. Voilà. Donc, si vous voulez, j'aime les vagabonds. J'aime les gens qui ne marchent pas dans les clous. Vous savez, moi, je suis un Parisien. Je suis né à Paris. Et on reconnaît un Parisien, il ne traverse pas dans les clous. Voilà, parce que voilà. Donc c'est à ça qu'on veut. Si vous traversez dans les clous, vous n'êtes pas un Parisien.
Philippe Azoulay, il y a dans ce film une scène extrêmement importante qui, moi, m'a beaucoup touché. Alors qu'elle paraît anodine, mais comme souvent avec Claude Lelouch, c'est les choses les plus anodines qui sont les plus importantes. C'est son environnement de travail, le Club 13. C'est un endroit. Qui est à la fois une salle de projection, une salle de montage, un endroit d'écriture, une salle de production. Et quand on repart de l'enfance, Claude Lelouch a créé sa chambre d'ado, sa chambre d'enfant, son sanctuaire. Et j'ai l'impression que c'est... Enfin, moi, par exemple, dans la façon dont je travaille, j'ai tout au même endroit aussi. Et que c'est quelque chose, moi, qui m'a beaucoup touché, c'est qu'on a besoin, quand on a envie de rester... toujours alerte ou toujours frais ou toujours d'avoir envie d'avoir cette chambre d'enfant en fait. Et ce que vous faites avec le Club 13, ça me touche énormément. J'ai eu la chance de venir projeter mon premier film chez vous, Les Méchants, et quand on arrive là-bas, on se dit qu'on arrive dans le cinéma. C'est très paradoxal, c'est très étrange. On sent que le cinéma existe en fait.
Oui, et toutes les maisons que j'ai faites étaient conçues comme des maisons du cinéma. Si vous venez chez moi ou... J'ai un petit manoir en Normandie, ce sont des maisons de cinéma. C'est-à-dire que tout tourne autour du cinéma. C'est vrai que je me sens protégé. Je me sens protégé et là, je peux prendre des risques. Voilà. Donc, c'est vrai que ce Club 13, en plus, il y a un restaurant, on peut discuter, manger. En plus, c'est un lieu ouvert. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement fermé pour moi. Moi, je m'en sers, mais je permets à toute la profession de s'en servir.
Et je vous remercie.
Voilà.
Non, c'est vrai, je tenais à vous le dire, vraiment merci.
Non, bah, écoutez,
j'étais très honoré de projeter la première fois mon premier film chez vous.
Écoutez, et en plus, c'est une salle qui porte chance. Vous savez que Chaplin est venu chez moi, au Club 13. Ça a été un des plus grands moments de ma vie, puisque je vous ai parlé de Chaplin tout à l'heure. Et donc, un jour, on me dit, il y a Chaplin qui vient présenter un roi à New York. Il était très vieux, très malade, très fatigué. Donc, j'ai mon cœur qui bat et je vais chercher Chaplin quand il sort de la voiture. Et il marche avec des béquilles. Et au Club 13, il y a un inconvénient. Il y a des escaliers pour descendre à la salle de projection. Donc, je l'ai pris dans mes bras. J'avais... Chaplin dans mes bras. Et donc, j'avais mon cœur qui battait. Et puis, je l'ai amené jusque dans la salle de projection. Je l'ai assis. Et là, il a sorti un billet de 10 euros. de 10 dollars à l'époque et ils croyaient que j'étais le portier. Quoi. Voilà. Et donc, ça m'a bouleversé. Voilà. Alors, évidemment, j'ai refusé les 10 dollars. J'ai dit, non, soyez gentil, ça me fait tellement plaisir. Déjà, ça serait à moi de vous les donner. Et puis, comme c'était un faux cul, parce que comme tous les grands artistes, c'était un faux cul, évidemment, après, on lui a expliqué que j'avais fait un homme et une femme. Donc, le faux cul, quand je suis allé le rechercher à la fin, je lui ai dit, vous savez, j'ai vu votre film 5 fois.
Voilà. Pourquoi, Claude Lelouch, vous dites que tous les grands artistes sont des faux culs?
Ben parce que nous sommes des menteurs. On est obligé d'enjoliver ce monde dans lequel... moi, j'ai jamais menti, j'ai toujours exagéré. Vous voyez ce que je veux dire? On exagère les choses. Et c'est formidable, c'est comme un type qui raconte une blague. Vous voyez, donc il y a ceux qui savent les raconter, ceux qui ne savent pas les raconter. Ceux qui ne savent pas les raconter, ils s'en tiennent à l'essentiel, c'est jamais drôle. Ceux qui savent les raconter prennent des chemins de traverse, ils font l'école buissonnière. Et donc ce qui est merveilleux, c'est quand on aime quelque chose, c'est de le sublimer d'un seul coup, de faire un feu d'artifice autour de cette chose pour la faire aimer aux autres. Vous voyez, parce que les autres l'ont vu, mais ils n'ont pas su le voir. Voilà. On ne sait pas se servir de nos sens. C'est pour ça que le cinéma est magique, parce qu'il se sert de ça. Je veux dire que c'est un microscope extraordinaire qui permet aux gens de voir l'invisible. Voilà.
Et Claude Lelouch, dans ce film de Philippe Azoulay, on a, dès le début, un aveu d'échec. Vous dites, je n'ai pas été un super amant. Des fois, pas un super papa. Il y a des choses que j'ai ratées. C'est pourquoi avoir commencé le film avec ça?
Parce que ça commence fort. Je me dis que l'inspecteur... En faisant ce film, j'ai voulu faire un divertissement. C'est-à-dire un film qui embarque les gens dans la tête des créateurs.
Philippe Azoulay.
Ça revient un peu à la réflexion que vous aviez fait sur l'atelier. Je crois que tous les créateurs ont besoin d'avoir un endroit matérialisé où c'est leur atelier. Alors que ce soit des peintres, des écrivains ou des cinéastes. Un endroit où ils vont entreposer tous leurs souvenirs, tous leurs rêves, toutes leurs obsessions, tous leurs travaux. Le Club 13, pour Claude, symbolise ça, mais comme Chaplin avait son atelier, Kubrick, c'était sa maison, Tati, Pagnol, chacun...
Même
avait...
dans la musique, Claude Nougaro, quand il s'est fait une maison à Paris,
évidemment,
il avait installé de quoi avoir un orchestre qui vienne jouer du jazz à la maison.
Ça donne l'avantage au créateur d'être dans sa bulle et à tout moment de pouvoir créer, de passer à l'action, en pleine nuit, en plein jour. Voilà, donc c'est... Et en faisant ce film... On voulait expliquer. Moi, mon intention était de mettre en évidence les processus créatifs et tous les obstacles, le parcours du combattant que doivent affronter les cinéastes pour faire leur film. Vous le savez, ça coûte beaucoup d'argent de faire un film, c'est très compliqué, on n'a que des obstacles, on n'entend que des noms avant d'avoir des oui. Et puis la pression est énorme, à la différence du peintre ou de l'écrivain qui est seul dans son coin. Le cinéaste, il est confronté à l'économie, il y a tous ces gens qui viennent brimer.
Mais Claude Lelouch, j'ai l'impression que non, c'est quelque chose que vous n'entendez pas quand vous montez un projet.
Ben écoutez, puisqu'on parle du oui et du non, je remercierai jamais assez tous les gens qui m'ont dit non. Ça m'a permis de trouver ceux qui m'ont dit oui. Et c'est avec ces oui que j'ai pu faire Synchrone Film. Vous voyez, donc si vous voulez, je suis toujours dans l'optimisme. Et quand quelqu'un me dit non, c'est je tiens, si j'ai eu une mauvaise idée. Je vais voir un acteur, il me dit non, ben sûrement qu'il a raison. Et c'est, effectivement, je trouve mieux à chaque fois. Donc si vous voulez, c'est mais c'est vrai que j'adore le oui parce qu'il est plus positif. Il m'a rendu plus de services. Et puis, c'est vrai qu'il va plus loin. Il m'a emmené là où j'aurais pas eu le courage d'aller. Le non, c'est trop facile. C'est une facilité absolument incroyable. Et donc, c'est vrai que... Non. Et puis, le cinéma est magnifique parce qu'on peut faire des films de pauvres et des films de riches. Moi, si j'ai rien du tout demain matin, je prends mon portable, 3 potes, je donne un coup de téléphone et je fais un film. Donc voilà, personne n'ira le voir, je m'en fous, ça sera un film d'amateur. Mais je viens du cinéma d'amateur, c'est le plus beau cinéma du monde. D'ailleurs, je suis un cinéaste amateur, je ne suis pas un professionnel de la profession, comme dirait Godard.
Ah non, mais vous êtes l'ancêtre de Courtrajmé, hein, Claude Lelouch. Hein. Voilà. Je vous le dis, vraiment, hein. vous êtes Courtrajmé avant Courtrajmé. Philippe Tessier.
Oui, je voulais revenir sur le film. On peut le dire, hein, au lieu de voir deux réalisateurs, on voit déjà deux amis. Et j'allais presque dire deux enfants. Et à un moment donné, il y a une phrase qui m'a beaucoup plu. C'est vous, Claude, qui parlez. Vous dites à Philippe, dans le film, « Regarde, c'est beau ce que tu filmes. C'est un travelling de film. » Est-ce que vous êtes focus cinéma 24 heures sur 24?
Oui, parce que... D'abord, nous sommes tous des cinéastes. Nos yeux, c'est la plus belle caméra du monde. On n'a pas fait mieux comme caméra. Vous êtes en train de me filmer, je vous filme. Vos oreilles, c'est les plus beaux micros du monde.
Et vous êtes cerveau, en 164K.
Ouais, et absolument. Et votre cerveau, c'est la plus belle salle de montage. c'est ce que vous coupez, c'est ce qui reste quand on a tout coupé. Je veux dire que c'est la mémoire, c'est une salle de montage extraordinaire. Donc, cinéaste est un art naturel. Alors, évidemment, certains d'entre nous filment un peu mieux que d'autres, et ils ont droit à la grande salle de cinéma. Et puis, surtout, on ne peut pas faire du cinéma si on n'a pas l'esprit de synthèse. Parce que c'est un art de compression. C'est un art de compression. Il va falloir raconter en une heure et demie la vie d'un mec de 70 ans. Donc, il faut faire des choix, des choix, des choix, des choix, comme dans la vie. Voilà, donc c'est pour ça que qu'est-ce que j'aime chez les grands, grands cinéastes, c'est qu'ils ont un esprit de synthèse qui, à un moment donné, nous amène quand même à l'essentiel. Les grands cinéastes dont on a parlé tout à l'heure vont, à un moment donné, à l'essentiel. Il y a trop de gens qui s'intéressent à des choses totalement inutiles. C'est pas mal, l'inutile. Des fois, ça repose un petit peu. Mais quand on fait un film, on n'a pas le droit à ça. Donc voilà, donc c'est ça que j'aime dans le cinéma, c'est que c'est un art naturel. Et puis, il n'y a pas besoin d'une culture préalable pour voir un film. Si demain matin, je veux apprécier la musique, il faut que j'apprenne un peu la musique quand même. La peinture, il faut connaître un peu le dessin. Le cinéma, vous sortez du ventre de votre mère, vous filmez. Vous filmez, donc c'est cet art populaire. Et en plus, c'est un art qui invite tous les autres arts. Je veux dire, il les matche pas.
Il les combine
tous. Demain matin, je peux inviter dans un film un grand livre... une symphonie, un peintre, je veux dire que c'est un art vachement généreux, il est comme la vie, il est comme la vie, et moi en plus, je ne suis pas un metteur en scène, je suis un metteur en vie, donc si vous voulez, je travaille avec un très très grand scénariste qui est la vie. C'est-à-dire que tous mes films parlent d'hommes et de femmes que j'ai croisés quelque part, les dialogues de mes films, je les ai entendus quelque part, voilà, et puis, vous savez, les idées, elles sont dans l'air. Sont dans l'air, et pourquoi à un moment donné une idée vient se planter chez moi, ou chez Jacques Brel, ou chez Van Gogh, voilà. Ça, c'est un mystère extraordinaire, formidable. Et les idées ne se trompent pas, elles vous choisissent. C'est elles qui vous choisissent, c'est pas vous, voyez. Donc à chaque fois que j'ai une bonne idée, moi je me retourne, mais qui me l'a soufflé, j'ai jamais eu la prétention de penser que c'était moi qui les avais eues. Mais en même temps, je les provoque. Je les provoque, je suis un très bon client, quoi.
Philippe Delouche, à ceci près que le cinéma est un art qui est intimement lié à l'industrie. On ne peut pas faire de cinéma sans moyens et sans une industrie. Vous faites quelque chose que l'industrie ne permet pas, c'est l'improvisation. Dans le film de Philippe Azoulay, par exemple, on voit qu'à un moment, il y a un incendie sur un tournage et que vous décidez de casser votre plan de tournage et de dire, ben voilà, en fait, on va faire de cet incendie un contre-champ, on va raconter ce qui s'est passé et on va faire comme si les personnages vivaient la même chose que l'équipe sur le plateau.
Absolument. Quand l'incendie arrive à cause du vent, La bâtisse s'enflamme, j'ai jamais vu un incendie de cette force. Donc je le filme. Je le filme déjà, et après, évidemment, je vais l'intégrer dans le film. Mais c'est vrai que la contrainte sollicite toujours l'imagination. Toujours. Et à chaque fois qu'une mauvaise nouvelle arrive dans ma vie, ou un obstacle arrive dans ma vie, c'est que cet obstacle, je sais qu'il va être utile. Tout ce que j'ai réussi dans la vie, je l'ai d'abord raté. Donc les échecs, pour moi, sont des universités absolument incroyables, j'en tiens compte. Je veux dire que tout ce qui me fait mal doit me faire du bien à un moment donné. Toutes les grandes catastrophes de l'humanité ont fabriqué le monde d'aujourd'hui. Je veux dire que tous les grands progrès, toutes les grandes inventions sont nées de moments terribles, de souffrance. Voilà. Donc, le jour où vous savez que la souffrance est la meilleure école du monde, à chaque fois que je souffre, je me dis, tiens, je suis à l'école, j'apprends des trucs. Moi, j'ai fait 50 films, je suis retourné 50 fois à l'école.
Vous avez beaucoup souffert en amour, Claude Lelouch ?
Pas trop, parce que j'ai su partir au bon moment. Il faut savoir partir au bon moment. Je veux dire que... j'ai su partir et puis je suis tombé sur des dames qui étaient fair-play, quoi, qui avaient le sens du jeu, voilà. Je ne peux pas dire que je n'ai pas souffert. J'ai souffert parce qu'il y a plusieurs façons d'aimer. Quand mon père meurt... Là, c'est une souffrance dont j'aurais beaucoup de mal à me remettre. Voilà. Si demain matin, le cinéma mourrait, je serais très, très malheureux. Je ne sais pas. Voilà. Bon, et en même temps, je ne crois pas à la mort, telle qu'on essaye de nous l'expliquer. Voilà. J'ai perdu récemment tous mes potes. De Johnny à Belmondo, en passant par Tapie. Enfin, la liste est impressionnante. Charles Gérard, etc. Le jour de leur enterrement, j'étais pas malheureux. J'étais pas malheureux parce que j'étais intimement convaincu qu'ils allaient être tout de suite recyclés et qu'on allait les retrouver dans d'autres aventures. ma part de rationnel me dit qu'on est mortel, mon irrationnel me dit tout à fait le contraire. Je veux dire, mon irrationnel m'a convaincu qu'on était là pour très très longtemps et que le meilleur de chacun d'entre nous était gardé. J'en suis intimement convaincu.
Je me posais une question pendant les obsèques de Johnny, quand on vous voyait avec le téléphone portable, je me disais, est-ce qu'il est en train de filmer les obsèques ou de visionner ses souvenirs ?
Non, j'étais en train de filmer les yeux de ceux qu'il aimait et ceux qui frimaient. C'était pour moi. Mais il y avait ceux qui étaient très, très, très touchés et ceux qui étaient à la parade. Et j'avais envie de filmer ça.
Moi, je ne vais pas vous mentir, j'ai été convié à ses obsèques. J'ai eu la chance de le rencontrer. Et je n'ai pas voulu venir parce qu'il y avait des caméras. Et ce que vous me dites, c'est quelque chose que moi, j'ai ressenti aussi en regardant. C'est que
tout à fait.
Quand on perd quelqu'un qu'on a pu croiser dans son chemin, on n'a pas forcément envie d'être filmé à ce moment-là. Et j'ai trouvé votre geste d'une puissance artistique tellement forte, de dire, à la manière d'un Warhol, je vais montrer la société du spectacle comme elle est. Et c'est un geste qui n'a pas été compris sur le moment.
Oui, oui, non, mais c'est la force du cinéma. Quand on est cinéaste, on a envie de tout filmer. J'ai envie de tout filmer. Parce que je sais que le monde a commencé à avoir de la mémoire en 1895. Avant la naissance du cinéma, on disait n'importe quoi. On le disait très bien à travers les livres. Mais le cinéma, c'est quand même, ment un peu moins que le reste. Il y a quand même si on triche une image, je pense que si on avait des images du Christ sur la croix ou Jeanne d'Arc en train de brûler, on dirait moins de conneries. Voilà. Donc d'un seul coup, je pense que la vraie mémoire du monde a commencé avec le cinéma. Et c'est pour ça que j'adore la peinture, parce que c'est les premiers cinéastes. C'est les premiers témoignages, c'est les premiers moments forts du cinéma. Voilà, donc si vous voulez, oui, je filme tout. Je filme tout, je voudrais qu'on filme tout, parce que c'est cette mémoire qui va nous permettre à tous de dire un peu moins de conneries.
Une des qualités très fortes du film, c'est l'honnêteté. Et vous venez d'en parler d'ailleurs, vous évoquez avec beaucoup de simplicité les échecs de vos films. Vous dites dans ce film que ce sont vos enfants et que vous les protégez. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à ce sujet ?
Bah écoutez, l'échec c'est
rare qu'un réalisateur parle de ses échecs.
Oui, mais parce que
je peux le faire aussi.
J'ai eu autant d'échecs que de succès. Et c'est curieux, j'ai l'impression que les échecs font partie de mon parcours. Je veux dire que l'échec, c'est comme si on redoublait une classe. D'un seul coup, le succès, il vous rend un peu con. Hein. Il vous rend un peu con, et puis on a envie de le reproduire. Et c'est à ce moment-là, on n'est plus créatif. Voilà. Alors que l'échec vous donne, on a envie d'une revanche. Et puis l'échec vous explique, on ne peut pas expliquer un succès. C'est impossible. C'est un miracle. On ne peut pas expliquer les miracles. Mais un échec, on peut l'expliquer. Et si on arrive à l'analyser, surtout l'échec, il faut plaider coupable. Il faut dire c'est de ma faute. Si vous dites c'est la faute du temps, c'est parce qu'il y avait le Covid, c'est parce que... Non, là vous faites pas de progrès. Mais si vous prenez l'échec, quand on a envie de voir un film, on y va. On y va, quelle que soit l'époque, il fait beau, pas beau, etc. Le film qu'on a envie de voir, on va le voir. Bon, si d'un seul coup, on ne vient pas vous voir, c'est comme un rendez-vous amoureux. À un moment donné, on vous pose un lapin. Voilà. Bon, de temps en temps, le public m'a fait cocu. Ou c'est moi qui l'ai fait cocu. Vous voyez ce que je veux dire? Mais peut-être que s'il m'a fait cocu, c'est parce que je n'ai pas été à la hauteur et l'inverse. Voilà. Donc, si vous voulez, l'échec explique tout. On analyse, regardez, c'est comme les policiers. Un mort, d'un seul coup, sa mort, on analyse et on va trouver peut-être des traces, l'ADN, etc. Bon, l'échec nous explique les choses. Nous explique, moi, tout ce qui m'a fait du bien m'a fait d'abord du mal. Voilà, donc c'est... C'est difficile à expliquer ça à des enfants. J'ai 7 enfants, 8 petits-enfants. J'ai du mal à leur expliquer qu'il faut souffrir pour vivre. Voilà, que la vie est une course d'emmerdement au pays des merveilles et que les emmerdes, c'est ce qui peut nous... Vous voyez, moi, je préfère avoir des emmerdes que de m'emmerder. Voilà. C'est aussi bête que ça. Je préfère avoir des ennuis que m'ennuyer. Voilà. Et à un moment donné, je sais que c'est au moment où je fais l'autopsie d'un échec que je trouve la solution du prochain film. Si vous regardez Un homme et une femme, qui est un film qui va faire le tour du monde et qui va tout obtenir, enfin, je veux dire, le grand chelem, la palme, les Oscars, ça vient derrière 6 échecs. 6 films qui étaient boiteux. Et ces 6 films boiteux, je leur dois tout. Je les aime encore plus parce que c'était eux qui ont inventé Un homme et une femme.
Philippe Azoulay, vous avez aussi capté un autre moment de vérité sur ce que c'est qu'un réalisateur. Et encore une fois, c'est un petit détail. C'est à un moment, il a un tiroir comme ça. Et on se dit, dans son tiroir, il a 4, 5, 6 scénarios de films qui ne sont pas tournés. Est-ce que c'est ça le secret ? C'est d'être toujours sur plusieurs films en même temps ?
Oui, parce qu'à un moment donné, il y a des regroupements d'idées. Il y a des regroupements d'idées qui s'enchaînent formidablement bien à un moment donné. Vous dites, merde, il y a une idée formidable dans ce scénario. Eh bien, je reprends les idées formidables de ces scénarios que je n'ai pas pu faire et je les regroupe dans un film. C'est le cas d'Itinéraire d'un enfant gâté qui regroupe énormément de sujets. Voilà. Donc, je pourrais écrire faire un film tous les jours. Je veux dire, il y a 7 milliards d'individus sur cette Terre, c'est 7 milliards de scénarios extraordinaires et tous plus fous les uns que les autres.
Mais quand vous dites tout le monde devrait se filmer, on a une époque où tout le monde se filme.
Oui, mais
il y a les gens sont habitués aux images. Quand on voit sur les réseaux sociaux, tout le monde se filme tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Et mal.
Et mal. Donc, c'est quoi la différence entre se filmer tout le temps, tout le temps, tout le temps, comme vous aimeriez qu'on le fasse tous, et du cinéma maintenant ?
C'est pire que ça, puisqu'aujourd'hui, la mode est au selfie depuis maintenant une dizaine d'années. Et les gens devraient comprendre que c'est la pire image qu'on puisse faire de soi-même, c'est le selfie, puisque la focale n'est pas suffisamment loin du visage. On n'est pas à notre avantage.
Pour et autant. Puis, c'est un sourire idiot à chaque fois. On sourit bêtement.
On ne fera pas de selfie ensemble.
Hein mais oui.
On est dans une époque d'image. En effet, tout le monde veut de l'image. Et on va à un concert, les gens ne regardent plus le concert, filment le concert. C'est très étonnant. Les gens utilisent l'image pour dire « j'y étais » plutôt que pour profiter de l'instant. Et ça, je pense que c'est une erreur de notre époque. Parce qu'en effet, lorsqu'on goûte un bon plat, le bonheur est de le déguster. Lorsqu'on va voir un spectacle, c'est d'être ému par le spectacle. Enfin, en tout cas pour moi, c'est d'être ému par le chanteur, l'artiste, la pièce, le film, profiter de l'instant présent.
C'est la vie de Philippe Tessier, il va tout le temps voir plein de spectacles, mais il ne filme jamais.
Rarement.
Mais on n'est plus dans le plaisir, on est dans l'observation, avec l'analyse, et puis la trace qu'on va garder pour nous, pour les autres. Donc on ne profite plus des choses. Et c'est très dommage, dans notre société un peu complexe, où on est une société de consommation jetable, on devrait prendre le temps d'apprécier les instants que l'on vit et que l'on partage les uns avec les autres, et pas chercher à se dire « ah ben je vais voir un tel, une telle, et puis je vais faire la photo, je vais la poster ». Bon, c'est bien, mais c'est plus pour les autres que pour nous. Et c'est vrai qu'on est tous les deux, nous sommes, j'espère plein d'autres gens, on est vraiment dans l'instant, dans le plaisir de l'instant que l'on vit, parce que la vie est une suite d'instants, de petits moments, de plaisir ou de détresse ou de malheur. Je ne crois pas au bonheur complet, je crois à ces moments de bonheur et que c'est en enchaînant tous ces petits instants qu'on finit par avoir une vie heureuse ou pas.
Philippe Tessier.
Philippe Azoulay, quel est le point de départ de ce film ?
Le point de départ, c'est suite à un rendez-vous au film 13 pour des raisons personnelles du décès d'un des membres de ma famille qui avait beaucoup travaillé avec Claude. Je suis allé le voir pour l'inviter au funérailles. Il ne pouvait pas, il m'a dit « passe me voir au film 13 ». Et là, il m'a dit, écoute, je suis à la fin de ma vie, c'est le sprint final, je suis fatigué, mes derniers films n'ont pas marché, mais là, je vais essayer d'en
vous
faire.
Vous l'avez cru quand il vous a dit ça ?
Mais c'était vrai. Pas sur la fin de sa vie, parce que je sais qu'il aura une longue vie vu sa pêche et son hygiène. Mais
moi, je pense que vu le nombre de scénarios qu'il n'a pas encore tourné, oui.
Il a du boulot encore, voilà, c'est pas fini. Donc, mais en me disant, je vais faire mieux et dans un temps donné. Je me suis dit, le mec est complètement dingue. C'est comme si je vous disais aujourd'hui, vous avez déjeuné avec Federer et que là, à midi, Federer venait de vous dire, alors tu vois, Mouloud, Roland-Garros, c'est moi. Nadal, je vais le croquer en 3-7. Wimbledon, c'est moi. Djokovic, je vais le croquer en 3-7.
C'est ce qu'il m'a dit le jour où j'ai eu la chance de l'interviewer.
Voilà. On se dit, le mec est dingue. Et on se dit, le mec est dingue.
Et il l'a fait.
Voilà. Et donc moi, en me disant ça, je suis rentré en me disant « mais il est fou, il veut aller plus haut, plus vite, plus fort, c'est lui, mais il est fou, c'est déjà difficile de faire un bon film. Et là, il en veut beaucoup trop et tout d'un coup. Et puis en réfléchissant, j'ai pensé à Cassius Clay, qui était Mohamed Ali, qui était le champion pour faire des déclarations tonitruantes, pour s'auto-galvaniser en fait. Et je pensais au film de boxe qui avait été fait sur le combat Mohamed Ali, Foreman, qui était fantastique. Et je me suis dit, mais il y a un film à faire qui raconterait à la fois les processus créatifs, les obstacles que doivent dépasser les créateurs pour faire leur film, et puis en même temps, la course folle d'un monsieur qui veut faire une course contre le temps. Course perdue d'avance, mais il veut la mener. Et je me suis dit, j'ai les deux ingrédients de cette horloge qui tourne, donc avec une urgence, et puis en même temps un défi artistique. S'il acceptait de me laisser tout montrer, de rentrer dans son atelier matériel ou intellectuel, et de tout montrer, de tout dire, ce qu'on ne fait jamais en vérité, parce qu'on ne veut pas raconter qu'on s'est engueulé sur un plateau, que ça s'est mal passé, que le film n'a pas marché. Enfin, on ne raconte pas nos échecs, nos galères. Enfin, quand on fait le service après-vente, les gens ne vont jamais se confesser véritablement. Or, c'est comme pour le sport, il y a un élu pour beaucoup d'échecs, il y a beaucoup d'efforts et beaucoup de souffrances. Mbappé, s'il met beaucoup de buts et qu'il est si génial, c'est qu'il y a beaucoup d'efforts et beaucoup de sacrifices. Nous, on voit que la réussite, mais ce n'est pas évident d'être un champion. Et ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts.
Et moi, la façon dont j'ai pris ce film, Philippe Azoulay, ce film c'est Tourner pour vivre, c'est que Claude Lelouch, c'est un camé, c'est un toxico du cinéma.
Et il n'est pas dopé.
C'est quelqu'un qui a besoin de son shoot, qui a besoin de son clap, qui vit pour ça en fait. Il veut sa dose de cinéma tout le temps. S'il n'a pas sa dose, il ne sait pas quoi faire de sa vie. Ça fait des montées et des descentes. Et il y a une question que je voulais vous poser, vous qui avez tellement de films à votre actif, c'est quelque chose que les réalisateurs connaissent, c'est le fameux « et c'est une fin de tournage pour ». Quand on commence à tourner un film, on dit « c'est une dernière journée pour tel acteur, c'est une dernière journée pour telle actrice ». Et quand on arrive sur le dernier jour, on dit « c'est le dernier jour pour Claude Lelouch ». Comment vous le vivez, vous, ce clap, quand vous l'entendez?
Bah écoutez, c'est vrai que ce sont des familles magiques. Ce sont des familles magiques. On s'aime à la folie pendant 5 semaines, 6 semaines, et puis après, on se fait cocu avec un autre film, encore une fois. Et donc, si vous voulez, encore une fois, moi, je suis rien d'autre qu'un observateur. J'ai passé ma vie à filmer mes observations. Voilà, mes films sont le résultat de mes observations. J'essaye d'être d'une lucidité bienveillante. Et Je suis d'une grande tolérance, c'est-à-dire que je porte jamais de jugement, disons, lui c'est un salaud, machin. Je ne crois pas, les super salauds, les super héros, j'y crois pas, je pense qu'on a tous les qualités de nos défauts. Donc
d'ailleurs, votre film sort en même temps que Doctor Strange et je vous conseille d'aller voir Claude Lelouch. C'est le vrai multivers, il est dans sa tête. Voilà. C'est vous le vrai Doctor Strange.
Non, écoutez, je ne sais pas, en tous les cas, je me laisse porter par les événements, chaque seconde invente celle d'après. J'essaie de faire l'apologie du présent. C'est-à-dire que le présent est la seule chose qui nous appartienne. Tout le reste, on en est les gardiens. Voilà. Le présent m'a donné... le bonheur, il est dans le présent. Voilà. Quand on fait l'amour, on ne dit pas « je vais jouer après-demain ». Voilà. Hein ? Quand on mange à table, on ne dit pas « je vais déguster ça dans 3 jours ». Voilà. Donc, on a... Le présent, c'est lui qui est le plus proche du bonheur. Le passé, c'est comme si vous preniez un mort dans vos bras. Le futur, c'est un tel point d'interrogation qui fabrique de nous des trouillards. Voilà, des peureux, on a peur de tout, etc. Donc, je fais l'apologie du présent. Et puis, le cinéma filme le présent. Je veux dire que la caméra, quand elle tourne, elle filme un instant, un parfum de vérité, un moment extraordinaire qu'on va sublimer. Voilà. Donc, si vous voulez, pourquoi j'ai besoin de tourner? Pourquoi? Parce que c'est là où c'est là où je suis heureux. J'ai fait 50 films, je suis parti 50 fois en vacances. Vous voyez, même et pendant les vacances, on peut avoir des moments très difficiles. Vous voyez, bon, mais c'est vrai que ces vacances, j'ai envie de les reproduire. Moi, je ne suis jamais parti en vacances. Moi, les premières vacances que j'ai prises, c'est pendant le Covid. Bon, j'ai compris, effectivement, qu'il y avait des mecs qui pouvaient aimer ça. Mais je m'amuse plus quand même quand je suis sur un plateau, parce que c'est la guerre. Quand on fait un film, on soulève une armée. On soulève une armée d'emmerdes, de gens, de critiques et le public. Qui est l'armée. Donc, c'est une histoire passionnelle, voilà, et c'est vrai que c'est une drogue. C'est une grosse drogue. J'ai besoin d'augmenter les doses à chaque fois, voilà, et comme j'augmente les doses à chaque fois, il est probable qu'à un moment donné, le cœur va s'arrêter, voilà.
Vous avez encore envie de tourner, là ?
Oui, bien sûr.
Ouais.
Oui, enfin, pas beaucoup. Pas beaucoup, parce que je sais que statistiquement, j'ai un certain âge. Et quand je regarde les statistiques, c'est l'âge où on commence à vous dire stop. Voilà. Donc je sais qu'on va me dire stop bientôt.
Mais qui va vous dire stop?
Le grand metteur en scène. Celui qui, à un moment donné, va dire c'est pas la peine qu'il fasse un film de trop. Mais c'est vrai que le film que j'ai envie de faire, le prochain, j'ai envie de faire tapis, comme au poker. Qu'est-ce que je risque? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous savez, le jour de votre mort, vous payez 100% d'impôts. Voilà. Donc, je préfère payer ces 100% d'impôts avant mon départ. Voilà. Je suis prêt à mettre tout dans un film si ça peut faire rêver quelques personnes.
Ce qui me fascine aussi, Claude Lelouch, c'est votre rapport non pas à la première fois, mais à la dernière fois.
Oui, oui, mais c'est pareil. C'est pareil, je veux dire que quand j'ai rencontré Brel, quelques jours avant son grand départ, il savait qu'il allait partir et il m'a dit, tu sais, depuis que je sais que j'y vais, j'ai jamais autant apprécié la vie.
Et il buvait une bière chez vous.
Voilà, il buvait une bière chez moi et il m'a dit, c'est la meilleure bière que j'ai jamais bu et c'est peut-être la dernière fois que je te vois, donc je t'écoute pas, je te déguste. Voilà. Et il me dit, depuis que je fais les choses pour la dernière fois, enfin, je les apprécie. C'est pour ça que les dernières fois sont aussi importantes que les premières.
Philippe Tessier.
Vous évoquez votre départ, mais dans l'immédiateté, dans le film, vous évoquez également vos ateliers de cinéma à Beaune. Vous êtes quelqu'un qui aime faire passer le flambeau ?
Oui, oui, alors ça, c'est la chose dont je suis le plus fier. Parce que c'est ce que j'aurais aimé trouver quand j'avais 16-17 ans, que j'étais un cinéaste amateur et qu'aucune école de cinéma ne me voulait puisque je n'avais pas les diplômes nécessaires. Voilà. Donc, si vous voulez, j'ai créé un lieu pour des fous de cinéma, des cinglés de cinéma. Ce n'est pas une école, c'est un endroit où, une fois qu'on leur a sélectionné, chaque année, on sélectionne 13 fous de cinéma. On pourrait en sélectionner plus, mais enfin, je n'ai pas les moyens. Et ces 13 fous de cinéma, on leur permet de regarder comment on fait un film. Donc, ils viennent sur mon film, mais je rêve demain qu'ils aillent sur les plateaux des plus grands metteurs en scène du monde. C'est comme ça qu'on apprend. Parce que là, on apprend en volant. Moi, j'ai appris en volant. À chaque fois qu'un prof m'a dit un truc, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qu'il veut me vendre ? Voilà. Et dans le vol, vous prenez ce qui vous fait du bien. Vous voyez, si vous entrez dans un appartement et vous devez voler, vous allez prendre les objets qui vont être utiles. Vous n'avez pas volé tout. Voilà. Mais le vol est intéressant parce que c'est une sélection des choses qui vont vous servir. Et puis, ça permet à tous ces fous de cinéma de faire des films à leur façon, à eux. Et dans les écoles de cinéma, on vous apprend à filmer à la manière d'eux. On vous fait faire du Fellini, du machin, on vous dévoile, etc. Alors que là, non. Moi, j'ai tout appris.
Vous samplez, en fait.
Comment ?
Vous samplez comme un
sampleur. Absolument. Ouais. Exactement. C'est exactement ça. Moi, j'ai appris ce métier en étant stagiaire pendant 3 semaines sur un film de Léo Joannon qui s'appelait L'Homme aux clés d'or, avec Pierre Frenet et Annie Girardot qui faisait son premier film. Le metteur en scène n'était pas un génie, mais j'ai vu ce qui réussissait et je voyais ce qui ratait. Donc je me dis, si un jour je fais ce métier, ça je ne ferai pas. Mais ça, je ferai. Donc je lui ai piqué ce qu'il savait faire. Et puis je me suis dit, à un moment donné, je me rappelle, il y avait un plan sur Freinet. On faisait un gros plan sur Freinet, les caméras étaient grosses et Annie Girardot était derrière la caméra, elle lui donnait la réplique. Et la caméra ne filmait pas Girardot et c'est elle qui était sublime. Et après, on a fait les plans sur Annie, donc Pierre Freinet est parti dans sa loge, c'est la script qui lui a donné la réplique, elle ramait la malheureuse, parce que les répliques de la script, et donc je me suis dit, si un jour je fais un film, je tournerai à 2 caméras. Il y aura une caméra sur celui qui parle et sur celui qui écoute. Parce qu'à ce moment-là, ils se donnent tous les deux. Voilà, donc j'ai volé ça. Je l'ai volé parce que je voyais que j'étais triste de voir qu'après on faisait les plans sur Girardot qui étaient beaucoup moins bonnes. Voilà, donc si vous voulez, c'est le vol est une chose très importante. Clouseau disait, il y a 2 sortes de metteurs en scène, les violeurs et les voleurs. Et moi je suis un voleur et lui c'était un violeur.
Claude Lelouch, c'est quoi une star ?
Alors une star, c'est quelqu'un qu'on est content d'aller voir même dans un mauvais film. C'est quelqu'un avec qui on a envie de passer 2 heures. On s'en fout. Si en plus il est dans un bon film, c'est mieux. Voilà. Mais c'est des gens qui ont un tel charisme qu'on a envie de les revoir comme on va voir un copain. On se fout qu'il ait un bon scénario, quelque chose. On ne lui demande pas ce jour-là de nous dire des choses importantes. Il y a des gens qu'on aime voir et des gens qu'on n'aime pas voir. Une star, c'est quelqu'un. Les vedettes sont des gens qu'on aime voir dans des bons films. Les stars, on peut même les voir dans des merdes.
Claude Lelouch, c'est quoi votre top 5 de films qui vous ont mis des claques en termes de réalisation, pas réalisés par Claude Lelouch ?
Incontestablement, La Grande Illusion, puisqu'elle naît le même jour que moi. Donc, je ne l'ai pas vue le jour de ma naissance. Blanche-Neige, elle a le même âge que moi. Et c'est vrai que quand je vois ce dessin animé, avec tous les enfants que j'ai faits, je leur ai à tous montré Blanche-Neige. Bon, je vous ai parlé de Chaplin tout à l'heure, Chantons sous la pluie. Le sommet des sommets, parce que dès que j'ai un coup de blues, allez, Chantons sous la pluie. Et puis, Quand passent les cigognes. Quand passent les cigognes, qui est le film qui m'a donné envie de faire ce métier. Je veux dire que j'ai eu la chance de passer une journée sur le plateau de Quand passent les cigognes en 57 à Moscou. Et j'ai regardé pendant cette journée Kalatozov qui tournait. J'ai dit, voilà le métier que je veux faire. C'est ce jour-là que je me suis dit, qui est l'acteur principal, la caméra ou l'acteur? Et ce jour-là, j'ai su que l'acteur principal d'un film, c'était la caméra. Parce qu'il est dans tous les plans et dans tous les films.
Claude Lelouch, il y a un réalisateur sur lequel j'ai toujours voulu vous interroger, c'est Stanley Kubrick.
Oui.
J'ai toujours voulu savoir quel était, vous, votre rapport avec Stanley Kubrick.
Alors, c'est un rapport merveilleux, parce que d'abord, il m'a appelé un jour pour me dire qu'un de ses films préférés, c'était La Bonne Année, donc venant de Kubrick. Et il m'a dit, vous savez, je montre La Bonne Année avant chaque film, à mes acteurs, parce que je veux qu'il soit aussi vrai que... Donc, voilà. Et puis ensuite, il m'a appelé parce que j'ai une salle de projection à Paris, où il voulait passer, faire les projections privées de Barry Lyndon. Et donc, il m'a demandé quelle était la longueur de ma salle, quelle était la largeur. Il m'a posé des questions techniques parce qu'il avait envie que son film soit vu dans les meilleures conditions. Il m'a dit, je crois savoir que vous avez une très bonne salle de projection. Voilà. Et donc, j'ai eu des rapports techniques avec lui, mais vraiment technique, c'est-à-dire qu'il voulait absolument être sûr que Barry Lyndon serait projeté. Et puis en plus, il m'a dit, bon, c'est vrai que La Bonne Année, c'est un de mes films préférés.
Je vous parle de Kubrick parce que vous êtes diamétralement opposés. Quand Stanley Kubrick prépare un film, c'est la documentation pendant des années, des recherches, des tonnes et des tonnes de documents, de la technique, dans les moindres détails. Et vous, c'est l'art de la vérité.
Oui, mais c'est pour ça qu'on s'aime bien tous les deux. Moi, j'étais épaté par ses films et lui était épaté par les miens. Parce qu'on est complémentaires, on est différents. C'était pareil avec Clouseau. Vous savez que Clouseau est venu faire un stage chez moi.
Mais non.
Oui, oui. J'ose pas le dire. Heureusement qu'il y a plein de témoins. Il y avait tous les techniciens. Trintignant était là. Et un jour, Clouseau est venu me voir. Et je tournais Le Voyou. Et il m'a dit, Lelouch, est-ce que je peux venir faire un stage? Il m'a dit stage. Il m'a pas demandé pendant une semaine. Je voudrais voir. Il paraît que vous obtenez des choses des comédiens dans la gentillesse et moi je l'obtiens dans la violence. Alors il me dit, j'aimerais voir un petit peu, j'ai vu vos derniers films, est-ce que vous m'autorisez? C'est formidable, c'est là que j'ai vu que c'était un immense metteur en scène, parce que après avoir fait tous les chefs-d'œuvre qu'il a fait, venir encore chez un jeune metteur en scène, voilà, donc et il est venu passer une semaine. Pendant une semaine, il n'a pas bronché, il n'a rien dit, il prenait des notes, il arrivait à l'heure, il partait. J'arrivais pas le croire. Et moi, j'avais du mal à tourner. J'avais Clouseau sur mon plateau qui me regardait. Et puis, le dernier jour, il y a ma coiffeuse qui avait oublié une perruque chez elle. Donc, elle vient me voir, elle me dit, Claude, je suis embêté, j'ai oublié la perruque. Il va falloir arrêter le tournage pendant 2 heures. Je suis désolé. Et là, Clouseau a bondi. Il lui a sauté dessus.
Comment ça?
Il l'a insulté. Il l'a traité de tous les noms. Et j'ai vu sa violence.
Sa vraie nature est ressortie.
Sa vraie nature qui était chassée le naturel et revenue au gâteau. Et là, j'ai compris pourquoi il obtenait tout ce qu'il voulait. Parce qu'à un moment donné, on ne pouvait pas lui dire non. Et donc, finalement, ça reste aussi pour moi un souvenir extraordinaire.
Et Martin Scorsese. Parlons-en de Martin Scorsese.
Alors, j'aime pas tout. J'aime pas tout parce que des fois, j'y crois plus.
Parce que vous avez, je trouve, un point commun énorme, c'est le rapport entre l'image et la musique.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et de ce côté-là, on est tout à fait synchrone. Tout à fait synchrone. Mais parce que la musique, c'est ce qui parle à notre part d'irrationnel. La musique, c'est le langage du grand metteur en scène. C'est un langage universel. Et je veux dire que la musique, moi, c'est le premier médicament que je prends quand je ne vais pas bien. Après, je prends de l'aspirine et des antibiotiques. Mais d'abord, je commence par de la musique.
Si là, ça ne va pas fort, vous voulez quoi comme médicament? Vous voulez écouter quoi?
Charles Trenet.
Ouais. Quel morceau?
Brassens. Boum,
ouais.
Mon petit cœur fait boum.
Eh ben, on l'écoute tout de suite.
La pendule fait tic-tac, tic-tic. Les oiseaux du lac pic-pac, pic-pic. Glou, 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 font tous les dindons. Et la jolie cloche, ding-dang-dong. Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum. Et c'est l'amour qui s'éveille. Boum.
On vient d'écouter Charles Trenet, Boum, choisi par l'immense Claude Lelouch. Philippe Tessier.
Oui, Mouloud.
Dis-moi tout.
On continue par les musiques.
Évidemment.
Avec Claude Lelouch. 60 ans de carrière, une cinquantaine de films, dont on va évoquer certains dans cette rubrique, à travers de la musique. Et de la musique, vous dites ceci, Claude. La musique, c'est le premier médicament que je prends quand ça ne va pas. Si Dieu parle une langue, c'est la musique. C'est le langage divin. et donc avec lui, je peux parler à tout le monde. La musique est un véritable personnage dans vos films. Vous pouvez nous en parler ?
Ben, c'est tellement un personnage que j'enregistre la musique avant le film. D'abord parce que ça va être un directeur d'acteur extraordinaire. À un moment donné, moi je suis à court de mots, j'ai à court d'arguments, et je lance la musique. Et à ce moment-là, les acteurs comprennent l'invisible, comprennent leur part d'irrationnel, d'un seul coup, se met à décoller. Voilà. Donc quand on fait un homme et une femme, la musique a joué un rôle très important, puisque j'avais enregistré toute la musique du film avant, et j'envoyais la musique sur le plateau, et je faisais marcher les acteurs sur la musique. Alors tout ça vient du Scopitone. Quand j'ai eu la chance de faire une centaine de clips à l'époque du Scopitone, j'ai compris à quel point la musique allait être importante dans mon cinéma.
Bah, parlons-en maintenant.
Ah bah, on peut en parler maintenant, absolument, puisque vous avez tourné plus d'une centaine de Scopitone pour Françoise Hardy, Dalida, Enrico Macias, Sylvie Vartan, Nougaro, Johnny, j'en passe. Je voulais savoir, est-ce que pour vous, ça reste un bon souvenir? Et surtout, est-ce que ça vous a aidé pour ce que vous avez fait après?
Tout à fait. D'abord, c'est la plus belle période de ma vie. J'étais dans l'insouciance. Je n'avais pas d'obligation de résultat. J'avais la chance de rencontrer les grandes stars de l'époque. Et ce n'est pas un hasard, les stars, ce sont des gens exceptionnels. Ce sont des rêveurs de très haut niveau. Ils nous font rêver. Et donc, je suis vraiment tombé amoureux de ces gens. Claude François, Gilbert Bécaud, enfin, la liste est impressionnante. Et donc, je savais très bien que si un jour je faisais du cinéma, la musique serait très importante dans mes films et que ce serait un personnage essentiel, fondamental, parce que c'est ce qui nous fait décoller. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, le rationnel vous raconte une histoire, la musique vous file la chair de poule. Vous voyez ce que je veux dire? Et la chair de poule, c'est quand même c'est ce qu'il y a de mieux pour le public, quoi.
Bien sûr. En tout cas, dans Tournée pour vivre qui arrive au cinéma, vous avez choisi, en plus de Francis Lai, C'est aussi ce groupe composé de Khadidji, originaire de Nantes, est venu revisiter les mélodies magiques de Francis Lai. Mais pour se donner une petite idée, on va écouter ce que propose C'est aussi. Pourquoi est-ce que vous êtes allé chercher C2C ?
En fait, je voulais que le film ait, égo de metteur en scène, je voulais que le film ait sa propre couleur et sa propre identité. Mais difficile de faire un voyage, de proposer au spectateur un voyage dans l'univers et dans le monde de Lelouch dans sa tête, sans y incorporer Francis Lai. Donc il n'était pas question de ne pas prendre Francis Lai. Et je cherchais, je me disais comment je peux faire un 2.0 de la musique de Francis Lai, et venant moi-même aussi comme Claude de la musique, du clip, et ayant fait partie de, voilà, ayant été dans des groupes, des choses comme ça, j'ai plein de copains dans la musique, et donc quand je courais, j'écoutais des morceaux, j'écoutais les radios et tout, et puis bien sûr mon esprit s'est dit, allez, va demander au Daft Punk, va demander au machin, va demander à tous mes copains, et puis j'ai dit, mais c'est pas du tout leur musique, c'est pas, et puis un jour en courant est arrivé Fuya, que j'écoute régulièrement, de C2C, et je me suis dit, mais c'est eux. Et donc, spontanément, je les ai contactés. Et à ma grande surprise, ayant fait beaucoup de clips encore avec des artistes internationaux, et j'avoue que c'est compliqué de faire des clips avec des artistes connus et reconnus, là, ça a été d'une simplicité folle. D'abord, ils adoraient Francis Lai, ça a été le bon choix. Pour eux, c'était évident, c'était un génie qu'ils comprenaient. Et ils ont été, j'avoue, j'ai rarement rencontré, ils m'ont dit oui tout de suite. Ça a été simple, ça s'est fait sans problème. On a organisé des sessions avec Francis qui a été samplé, mais alors...
Dans tous les sens.
Dans tous les sens, sans qu'on lui demande son autorisation, comme Moroder, enfin comme tous les compositeurs de musique.
Les fameux sampleurs et sans reproche.
Voilà, exactement. Et là, tout d'un coup, il se retrouvait avec les mecs qui venaient en studio, qui lui demandaient l'autorisation, qui voulaient faire, enfin, tout faire de toute manière, tout ça de manière concertée et en échange. Donc, il était honoré et enthousiaste. Et puis Francis était vraiment quelqu'un d'extrêmement gentil, bienveillant, généreux. Donc, j'avais un môme devant moi, encore plus ado que nous.
Et ils ont dit oui tout de suite. Et puis je leur avais dit, on fait quelques morceaux. Puis ils en ont composé quand même pas mal, des morceaux originaux. Chacun s'est réparti selon leur méthode. Il y en a un qui prend un morceau, il le mixe, et puis il le passe à l'autre, qui le passe à l'autre, qui le passe à l'autre. Chacun fait sa sauce. Et ils m'ont sorti beaucoup, beaucoup de morceaux. J'en ai gardé, c'est un pur hasard, 13. Des morceaux Francis Lay et C2C. Et puis, j'ai gardé quelques morceaux de C2C propre. Et puis, un morceau original. Je voulais faire un morceau sur la notion du temps qui passe et du temps élastique. Référence à l'Inde, tout ça. Donc, j'avais enregistré plein de sons que j'ai donné à l'un des compositeurs. Et ils m'ont fait des morceaux. Et ça a été un vrai bonheur, encore une fois. Je les en remercie parce qu'ils ont fait, je crois, un super travail et vraiment... d'amoureux. Ils n'ont pas juste pris pour faire le truc.
Ça se ressent dans le film en plus. Beaucoup, beaucoup.
Philippe Lessier.
Claude Lelouch, les plus grands ont chanté ou composé dans vos films. Nicole Croisy, Pierre Barou, Johnny, Calogero, Jacques Dutronc, Michel Legrand, Françoise Hardy et bien sûr Francis Lay. Dans le film, il y a des images très touchantes de Francis Lay.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer que représente Francis Lay dans votre vie ?
Oh là là.
En quelques mots.
L'homme de ma vie. L'homme de ma vie, c'est Pierre Barou qui me l'a présenté, donc je le remercierai jamais assez.
Ça rêve.
Et il m'a dit, un jour, il m'a dit, je connais quelqu'un qui fait de la musique comme toi, tu fais des films. Il faut absolument que tu le rencontres. C'est un petit accordéoniste. Il a quand même accompagné Edith Piaf. Mais il faut que tu le rencontres, c'est urgent, urgentissime. Mais comme Pierre Barou avait un sixième sens extraordinaire pour découvrir tout, plein de talents, Dieu sait s'il en a découvert, voilà. Et donc, je rencontre Francis Lay. Et ça a été le coup de foudre. Le coup de foudre, il était avec son petit accordéon dans mon bureau, voilà. Enfin, mon bureau, ma chambre de bonne à l'époque. Et puis, il s'est mis à jouer de l'accordéon, et puis... on s'est aperçu qu'à 3h du matin, on était encore en train d'écouter. On ne pouvait pas s'arrêter, voilà. Et puis après, c'était l'époque où je préparais un homme et une femme. Et je lui ai dit, écoute, on va faire... vous allez faire, on se voyait encore ce jour-là, vous allez faire mon prochain film, qui est peut-être mon dernier, parce que comme les 6 premiers n'avaient pas très bien marché, je lui avais dit, si celui-là ne marche pas, j'arrête. Voilà. Donc, on a travaillé ensemble, comme ça, et puis... Donc je lui ai raconté il a été la première personne au monde à qui j'ai raconté le scénario d'un homme et une femme, et je lui ai dit, si cette histoire t'inspire, tu me racontes la même histoire dans la semaine prochaine ou dans 10 jours avec des notes de musique.
J'aimerais,
et la semaine d'après, on est arrivé à ces musiques magiques.
Juste quelques précisions sur ce film Mouloud. Si Claude ne veut pas en parler, peut-être par humilité, c'est un film à part dans votre carrière. Vous êtes à la fois auteur, producteur, réalisateur, co-scénariste et directeur de la photographie. Mais ce film, c'est aussi une destinée unique. Palme d'or du Festival de Cannes en 66, 2 Oscars, rien que ça, en 67, remis par 2 légendes, Fred Astaire et la sublime Ginger Rogers. Et j'ai une toute petite anecdote.
Et 3 Golden Globes.
En plus, il faut savoir que vos parents se sont rencontrés en 36 en allant voir au cinéma Cheek to Cheek avec ces 2 stars. Et je voudrais juste faire une parenthèse, ça me touche beaucoup. Aujourd'hui, vous avez un blouson. Sur ce blouson, c'est le blouson d'un homme et une femme. Pourquoi ?
Parce que j'avais envie de le mettre en ce moment. C'est le blouson que porte Jean-Louis Trintignant dans Un homme et une femme. Donc c'est un blouson de 1966. C'était l'écurie Ford qui avait fait ce blouson pour les coureurs de chez Ford. Et comme il y a quelques personnes que j'aime bien, donc on a refait faire ce blouson pour quelques copains. Voilà, donc c'était ma façon à moi de dire merci encore une fois à ce film qui a changé la vie de tous ceux qui l'ont fait.
Est-ce que 56 ans après, ce sera ma dernière question, est-ce que le regard que vous avez sur ce film est le même ou est-ce qu'il a évolué par rapport aux années passées ?
Non, vous savez, c'est le regard qu'on porte sur un... C'est ma deuxième naissance. C'est mon papa et ma maman. C'est mon papa et ma maman de cinéma. Je veux dire que ce film, je lui dois ma liberté, je lui dois tout, 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 tout. Et donc, je l'aime de plus en plus.
Claude Lelouch, en France, il y a 2 grands réalisateurs qui sont encore parmi nous. Il y a vous et il y a également Costa Gavras.
Oui.
J'aimerais vous faire écouter Costa Gavras.
Impossible n'est pas impossible. Je veux dire qu'avec du travail, avec la volonté, avec la persistance et la ténacité, on peut arriver. Je veux dire, il ne faut pas se dire parce qu'on vient d'un petit pays ou d'une famille pauvre ou je ne sais pas d'où, tout est fermé. C'est ça qu'on nous apprend quand on est jeune. En tout cas, quand j'étais en Grèce, je disais, non, pas possible d'aller à Hollywood. C'est vous, pourquoi vous irez à Hollywood? Qui vous accepterait? Eh bien voilà, on a été. Je pense que c'est possible. Donc ce n'est pas possible. Si c'était possible pour moi, c'est possible pour beaucoup d'autres.
Impossible n'est pas impossible, Claude Lelouch.
Tout à fait. Et Costa l'a prouvé plusieurs fois, lui aussi.
Vous avez un message adressé à Costa Gavras?
Je l'embrasse très fort, très très fort, et je lui souhaite de vite faire un autre film.
Eh bien, on vous souhaite pareil, Claude Lelouch, on vous souhaite vite de faire un autre film. Philippe Azoulay, je vous remercie pour ce film, pour ce merveilleux travail. Ça s'appelle Tourner pour vivre, c'est en salle demain. Je vous remercie d'avoir filmé Claude Lelouch pendant toutes ces années. Je vous remercie d'avoir montré à quel point c'était important de filmer Claude Lelouch, important de raconter Claude Lelouch, et à quel point on est honoré, on est heureux et on est ravi d'avoir passé un moment avec vous, Claude Lelouch. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Verveine Underground. Et je tiens à vous témoigner ce soir au micro d'Europe 1 toute mon admiration, mon affection et mon estime. Voilà, je vais commencer par chialer. Merci Claude Lelouch, merci Philippe Azoulay. Ça s'appelle Tourner pour vivre et c'est en salle demain. Philippe, on se retrouve la semaine prochaine.
Avec plaisir.
Verveine Underground.